Monsieur Christophe Razumny, qui travaille à la DGO 4, Direction de l'aménagement opérationnel, et qui va nous parler de la gestion des friches urbaines en Wallonie, un outil pour limiter le gaspillage des terres.
Donc pour me permettre de tenir un quart d'heure, de laisser de côté la partie historique. La partie, voilà, je vais vous montrer le plan. J'ai envisagé de présenter le contexte historique wallon, le développement industriel wallon, ben, ça on mettra de côté, comme ça on passera directement au concept de désaffectation. Les réponses des pouvoirs publics et la mise à jour de l'inventaire des sites à réaménager. Donc, et c'est dans ce cadre-là que je vais développer les questions, comment un site désaffecté peut aider justement à limiter l'urbanisation des terres agricoles. Donc, je vais donc passer le développement industriel wallon. Je vais passer tout de suite au point, aux cartes. Voilà, donc là, la particularité, c'est que en Wallonie, dans le Sion Sambre et Meuse, N, vous avez concentration des industries. Là, on voit les sites d'activité de la première industrialisation, la présence des fourneaux, des hauts fourneaux, et alors une carte des communes les plus industrialisées entre 1910 et 1945, qui montre bien les zones les plus concentrées et automatiquement, par la suite, les zones où on va trouver, bien sûr, les sites désaffectés. Donc, un fil conducteur est un peu la ligne du temps entre 1950, où il y avait énormément d'activités économiques en Wallonie, et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des actions de réaménagement de sites, certaines, bon, d'autres, une bonne partie encore, nous avons encore beaucoup de sites désaffectés. Bon, là, la désaffectation, donc, des dates clés entre 55 et 73, fermeture des charbonnages. Dès 1972, les industries manufacturières ferment. Dès 1977, la métallurgie, la sidérurgie, elle-même, il y a des fermetures de nouveau assez importantes en 2000 et 2010. Au milieu des années 80, il y a le tertiaire qui apparaît, et donc beaucoup de friches tertiaires apparaissent. Et je donne toujours l'exemple aussi de l'ouverture des frontières a entraîné beaucoup de friches au niveau des petites frontières où il y avait beaucoup de stations-service et café. Bon, et la désurbanisation forcenée, construction en dehors des centres, a automatiquement entraîné aussi beaucoup de friches industrielles. Donc, on peut dire l'urbanisation des terres entraîne également la frichisation des sites désaffectés. Donc, friches occupant parfois de très grands espaces en zone urbaine. Voilà. Alors, ou de très petites parcelles. Cet héritage représente un coût humain et territorial. Par exemple, depuis en 45 ans, 4557 sites ont été répertoriés dans notre base de données. Ça fait plus de 15 000 hectares. Et aujourd'hui, dernier inventaire, 2213 sites sont encore désaffectés. Ça fait près de 3800 hectares. Concentration dans le Sion, Sambre et Meuse, plus de 75%. Là où se concentre 65% de la population. Donc, on a parlé tout à l'heure des habitations, tout ça. Les friches industrielles, les sites désaffectés se trouvent dans ces endroits-là, dans ces zones urbaines. Beaucoup se trouvent en milieu fortement urbanisé, impact sur l'aménagement du territoire et l'urbanisation. Et il y a également, le dernier inventaire indique quand même une proportion non négligeable dans les communes rurales. Néanmoins, ces sites désaffectés constituent un potentiel. Plus de 85% de ces sites se trouvent en zone urbanisable au plan de secteur, d'où intérêt. Un site qui a servi hier peut servir demain. La désurbanisation est coûteuse, notamment en termes de transport, d'énergie, et le sol wallon doit être géré avec parcimonie. Et bonne nouvelle, tous les sites désaffectés, la plupart en tout cas, sont proches des moyens de communication. Je dirais aussi un point aussi qui va, c'est suite à l'écoute des conférenciers précédents, puisque la construction d'habitations est un responsable sérieusement donc de l'urbanisation des terres. Les chiffres de l'inventaire montrent que proportionnellement, en tout cas, plus de 80%, si pas 90% des sites ont des problèmes de pollution réduits qui peuvent facilement être soulevé par des mesures qui doivent être suivies dans le cadre du décret sol et donc compte tenu que ce sont des pollutions historiques, et donc automatiquement la gestion des, au niveau du décret sol est moins contraignante que dans le cas des pollutions nouvelles. Donc favoriser la réutilisation des sites affectés peut donc freiner l'urbanisation des sols agricoles. Bon, aussi bien sûr, réaménager ces sites permet aux riverains aussi d'améliorer leur cadre de vie pour mettre en évidence aussi certains patrimoines remarquables ou encore créer un renouveau de l'esprit d'entreprise. Les réponses des pouvoirs publics, d'abord dès 1967, il y a une des différents services successifs dont la direction de l'aménagement opérationnel est l'héritière, donc pour justement gérer ces friches. Je ne vais pas les citer, on va passer ensuite à l'extension progressive du champ d'application de la politique menée. Dans les années, la fin des années 60, principalement les sites charbonniers suite à la fermeture des charbonnages. Ensuite, ça s'est ouvert à tous les sites d'activité économique. Bon, en 2004, je ne vais pas très loin parce qu'en fait, c'est une définition qui en définitive n'a jamais été d'application. On a voulu lier sites désaffectés à sites pollués, ce qui n'était pas avantageux pour les sites désaffectés puisque, comme je vous dis, énormément de sites désaffectés ont un problème pollution limité. Et alors, dès 2006, ça s'est étendu aux sites à réaménager, c'est-à-dire tout site, un bien immobilier ou ensemble de biens immobiliers qui a été destiné ou accueilli des activités à l'exclusion, toute activité à l'exclusion de logement, dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé. Donc ça veut dire que ce sont non seulement des activités économiques, plus, sans être exhaustif, des bureaux de poste, des polices, des écoles, palais de justice, hôpital, casernes, centres culturels, églises. Donc tout bien immobilier ou une activité humaine s'y est déroulée. Donc mise en place d'un inventaire des sites désaffectés. Donc ça date depuis 1968. Je ne vais pas vous rappeler qu'à chaque fois on est passé d'abord des sites charbonniers aux sites d'activité économique. Et plus récemment, en 2011, la CPDT a eu une mission en vue de redéfinir les objectifs de l'inventaire, de sa diffusion et d'établir une procédure d'actualisation permanente. Dans la foulée, on a fait un marché public européen pour l'actualisation de l'inventaire. Il a été confié au consortium Converto Walfot Les Purs. Bastien n'est pas encore là, mais il pourra répondre à des questions si vous souhaitez. Prise en compte du risque de pollution dans cet inventaire. Depuis 1991, la pollution est prise en compte. Et plus récemment, en 2014, pour que le nouvel inventaire soit des plus performants, le CHST, le Centre d'histoire des sciences et techniques de l'Université de Liège, fait un travail sur base de l'inventaire des SAR en cours, en repérant toutes les activités économiques qu'il y a eu sur ces sites. De nouveau, pour apporter une transparence à ces sites et donc à pousser des investisseurs potentiels, promoteurs ou investisseurs, donc non seulement pour les logements, mais pour investisseurs pour des activités, pour éventuellement s'intéresser à ces sites. Bon, là, les variables prises dans l'inventaire, ça c'est pour préciser en gros des données d'identification, de description, de nuisance et de potentialité, mais également, plus récemment, et ça c'est important de le dire, une banque de données, donc c'est une base de données des plus modernes et performantes, avec une digitalisation au niveau de la parcelle. Donc voilà comment l'inventaire s'est augmenté depuis 1968 de 550 sites à maintenant 4757 sites inventoriés. Et on peut dire qu'environ la moitié de notre base de données comporte encore des sites désaffectés. Le reste comporte des sites qui ne sont plus désaffectés. Je vous montrerai en conclusion que les sites non désaffectés peuvent aussi être un intérêt pour les réutiliser parce que dans beaucoup de cas, ils ne comportent plus une contrainte au bon aménagement des lieux, mais dans beaucoup de cas, ils ne sont pas encore occupés. Donc, on pourra envisager aussi d'urbaniser réurbaniser ces sites-là. Donc, du coup, le potentiel est important. Donc, voilà, bon, ça, c'est les études pollution qui ont été faites en parallèle. Développement d'un cadre légal poussant le propriétaire à démolir ou rénover leurs biens. Cadre contraignant. Donc, je vais citer ici la procédure originale en 1998 pour les sites d'intérêt régional où tout à coup c'est la région qui se substitue au propriétaire qui ne répond pas pour acquérir, démolir et verduriser les sites. Et bien sûr, un autre point, dès 2004, un décret instaurant les taxes sur les SAED. Donc, les subventions aux opérateurs publics, il s'agit de subventions pour les communes intercommunales. Et voilà, actuellement, on subventionne à 60% l'acquisition et 100% les travaux de réhabilitation et de rénovation. Les chiffres, je les trouvais très optimistes, plus de 400 millions d'euros, plus de 2000 hectares. Malheureusement, maintenant que j'ai entendu les conférences juste avant, quand on voit qu'il y a 2000 hectares de terres agricoles urbanisées chaque année. Tout compte fait, ce qu'on a fait, ça n'apporte peu de choses. Bon, bref. Mais voilà, donc. Mais par contre, je verrai plus loin les questions des urbanisations autres, non région wallonne, par les privés. Prise en compte la DO du risque de pollution dans le cadre de ces subventions. Bon, ben voilà, donc depuis 1992, 480 sites étudiés et 338 sites présentaient un risque de pollution, dont 231 ont fait l'objet d'une gestion de pollution. Bon, donc, mais la plupart, c'était quand même des gestions de faibles problèmes de pollution. Donc, les aides pour le privé, ils sont faits, bonification d'intérêt remboursable, partenariat public-privé pour les réaménagements destiné au logement. Voilà. Donc, d'autres outils d'aménagement opérationnel peuvent venir en complément de la procédure SAED-SAR. La rénovation urbaine visant à rénover les quartiers dégradés en centre urbain. Et la revitalisation urbaine visant à soutenir les projets de partenariat public-privé en centre urbain également. Donc, exemple de rénovation. Bon, voilà, on va citer rapidement. Là, une réhabilitation, on a démoli en logement. À chaque fois, en beaucoup de cas, c'est en logement, puisque c'est en centre urbain, bien situé par rapport aux voies de communication. La mise à jour, l'inventaire, je ne sais pas ce qui reste comme temps pour voir si... Oui, ça va. Donc là, elle s'est faite en 4 phases. D'abord, un développement préparatoire où il fallait détecter les sites SAR potentiels sur base de non seulement du travail de la CPDT, mais d'autres sources d'informations identifiées par le LEPUR. Consolidation des bases de données de la DGO4 pour faire une base pour s'assurer et retirer des doublons et autres. Et développement des moyens opérationnels pour l'exécution de la phase 1, c'est-à-dire la visite des communes. Formation de l'équipe à l'exécution des phases de projet. La phase 1, prise de contact avec les communes et prévalidation des sites. Ça, c'était cette phase où il fallait identifier une personne de contact par les communes, prise de contact avec les communes et programmation d'une réunion. Réunion au sein des communes pour arrêter le statut des sites et valider des nouveaux SAR. Et puis après, la phase 2, donc troisième étape, qui correspond à la caractérisation des sites. Là, les enquêteurs allaient sur le terrain, sur les sites répertoriés, et il fallait... donc remplir la fiche d'inventaire sous tablette. Donc phase 3, édition finale, c'est la consolidation des données et la restructuration et préparation de la fourniture finale. Bon, après, je vais vous donner quelques éléments de cet inventaire. Bon, là, détection des points chauds. Alors là, le système informatique qui a été développé par Walfot pour justement non seulement informer l'administration de l'état d'avancement via un WebGIS disponible, donc informer les communes des sites recensés en tant que points chauds via un accès sécurisé Internet. Et alors la partie gauche, c'est tout le travail qui était installé sur tablette Android pour permettre justement à l'enquêteur d'aller voir les communes. et donc et leur montrer sur tablette en tout cas et leur poser des questions de façon avec une tablette dynamique. Donc bon là c'est la formation. Bon, phase 1, on a vu là éventuellement un exemple de carte qui était présentée aussi aux communes parce que parfois les tablettes ça apporte pas, ça résout pas tout. Voilà le travail visuel et tablette. Voilà aussi un street view qui permettait donc de voir sur ces tablettes avec les, enfin, de répondre à questions. Bon, ça c'est l'affiche. Voilà le bilan en fin de phase 1 avant de visiter les sites. Oui. Ok. Donc voilà. Donc en gros, c'est le. Je pense que tout ce que j'ai. Je passe maintenant l'inventaire. Je crois que c'est avec ce que j'ai dit. C'est suffisant. Alors voilà un exemple de carte là. Carte générale d'un site avec présence de déchets. Présence de bâtiments. Présence d'une zone réoccupée qui n'est plus désaffectée. Présence d'une l'emplacement de la vocation des sites, voilà la vocation parce qu'ils ont aussi pour chaque site se sont posés la question quelle est la vocation idéale de ces sites par rapport à leur environnement, par exemple habitat, par exemple activité économique ou autre. Et là données sur les activités historiques en relation avec le centre d'histoire des sciences et techniques. Bon, ça c'est l'état final. On a quelques exemples. Bon, les cartes. On va passer tout de suite aux conclusions. Donc, la politique de réhabilitation et rénovation des sites affectés a été axée à l'origine sur les sites charbonniers, comme j'ai dit. Elle s'est étendue progressivement à l'ensemble des friches industrielles, puis à tous les secteurs d'activité économique, puis s'étendre enfin aux sites non économiques, l'ensemble constituant les sites à réaménager. Donc, les subventions publiques wallonnes qui ont visé à la démolition des bâtiments et fondations et au maintien de la rénovation des bâtiments en vue de réutiliser les sites à fin économique, logement, services publics ou autres. Ces dernières années, le choix des actions régionales s'est porté en priorité sur des sites situés en zone urbaine ou tout au moins urbanisés, à côté des centres de communication et autres. Prise en compte du problème de pollution depuis 1992, qui a permis également à développer les outils nécessaires pour le décret sol. Des subventions régionales ont permis de réhabiliter 2000 hectares en friche, environ 2000 hectares de friche en 45 ans pour un budget de 400 millions d'euros. Durant la même période, quelques 10 000 hectares de friches réaménagées par des privés ou par des entreprises publiques sans avoir eu recours aux subventions régionales. Et c'est là-dessus qu'on va développer un peu plus loin, enfin juste après. Néanmoins, on estime qu'il reste encore à ce jour près de 3800 hectares de sites réaménagés. C'est dans ces deux derniers groupes que se trouve le potentiel de terrain disponible pour l'urbanisation. Les sites à réaménager, dont plus de 80% des 3700 hectares sont en zone urbanisable, et les sites réaménagés, donc qui ne répondent plus à la définition de sites désaffectés, mais non réoccupés, parmi les 12 000 hectares réaménagés. Il existe un nombre important de sites disponibles en urbanisation. Nous n'avons pas encore les chiffres, mais l'estimation au moins est équivalente aux 3700 hectares, si pas plus. Donc, mais ça, c'est un travail plus précisément d'exploitation de l'inventaire qui nous permettrait d'en savoir plus. Néanmoins, jusqu'à présent, l'offre effective de terrains désaffectés ou réaménagés est inoccupée et la demande de terrains à réurbaniser ne se rencontre pas. Ben oui, il n'y a pas... Il n'y a pas ceux qui ont un site désaffecté, ils ne mettent pas jusqu'à présent sur une base de données pour trouver des investisseurs potentiels ou des promoteurs. Donc, les missions réalisées récemment, d'une part par la CPDT en vue d'exploiter au mieux l'inventaire des SAR et en diffuser les résultats, d'autre part par le consortium Converto Les Purs ULG qui a développé un outil performant qui facilitera l'actualisation permanente de l'inventaire, et enfin par le CHST, qui permet d'améliorer la connaissance sur les activités anciennes de ces sites et donc leur risque potentiel, devrait permettre de contribuer à favoriser cette rencontre et de ce fait contribuer à limiter l'urbanisation des terres agricoles. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci.